Bon, le café approche, je vous promets de faire très court. Quatre petites remarques après avoir remercié Rémi Casals aussi pour la qualité de son résumé. Donc j'ai pas grand-chose à dire, juste première remarque par rapport à la réforme scolaire dont parlait Antoine Pro, enfin la réforme sur la discipline et le rapport d'Henri Marion auquel participent effectivement tous les pédagogues de l'époque, Jules Payot, Lavisse, etc. Il se heurte au même problème, qui est le problème de la définition de l'obéissance. Et donc c'est-à-dire c'est quoi obéir d'ailleurs? C'est quoi obéir? Est-ce que discuter à table, il y a un grand débat sur le réfectoire, est-ce que les élèves ont le droit de parler pendant qu'ils mangent? Bon, est-ce que c'est de l'obéissance ou de la désobéissance? Et il y a un débat sur ça. Et ce débat-là, ça soumet aussi l'obéissance ou le refus d'obéissance aux représentations ou à la perception. Il a lieu aussi dans l'hôpital. Il y a entre Bernheim à Nancy ou Pierre Janet, qui est l'élève de Charcot, il y a des grands débats sur la désobéissance du sujet ou l'obéissance du sujet. Et au fait, c'est très poreux, c'est à géométrie variable. Et donc ça pose, deuxième remarque, la définition ou du refus d'obéissance. Qu'est-ce que c'est refuser d'obéir? Et les soldats n'en parlent pas de la même manière que les officiers, ni même que la justice militaire, par exemple. Si on évoque la judiciarisation du refus d'obéissance, c'est une très faible part. Par exemple, si on fait un peu d'histoire quantitative, moi j'ai dépouillé les minutiers de justice de la 3e division sur la totalité de la guerre, donc il y a 1329 décisions de justice, et 73 seulement, 73 concernent les refus d'obéissance. Et sur les 73, il y en a 54 qui sont, on va dire, sur la zone qu'on pourrait appeler l'arrière-front, c'est-à-dire pas au combat. Précisément pas sur la tranchée ou sur les premières tranchées. Elles ont lieu à l'arrière, au cantonnement, sur des retards, etc. Donc ça, évidemment, si on parle de la judiciarisation, le chiffre est très faible. 19 refus d'obéissance en ligne sur l'effectif total d'une division renouvelée, qui est difficile à cerner, mais qui sont 30 000 hommes, il y a une part très, très, très faible. Et on sent bien que ça réfléchit pas à la pratique, la pratique de refus d'obéissance. Alors peut-être, enfin, je suis absolument d'accord avec le professeur Antoine Pro sur le choix qui se réduit quand on descend effectivement et la hiérarchie et le soldat par rapport au franchissement du parapet. Mais par contre, le soldat du rang juste à l'arrière du parapet a quand même une plus grande plasticité. Et enfin, jusqu'au permissionnaire traité par enfin, Emmanuel Cronier, ou même au cantonnement et très près de la zone de feu, il y a là une très grande marge hein, sur l'obéissance aux ordres ou le refus d'obéissance aux ordres. Ah, bon. Troisième remarque sur l'effet d'unité dont vous avez parlé aussi. C'est vraiment quelque chose, à mon avis, c'est une piste à creuser. Enfin, vous avez parfaitement raison. En même temps, en faisant un petit peu d'histoire quantitative, on pourrait, par exemple, avec les minutiers des conseils de guerre d'un corps d'armée ou d'une division, voir les différences entre régiments. Et il y en a, par exemple, à la 3e division, il y a 3 régiments qui ont des historiques absolument parallèles, qui sont à peu près exposés au feu au même moment, etc. Et il y a des différences très fortes sur les conseils de guerre, par exemple. Mais peut-être est-ce une limite de l'histoire quantitative? On ne sait pas si ces différences sont dues au comportement différent des soldats ou au comportement différent des officiers de la justice militaire. Enfin, dernière toute petite remarque j'en avais déjà parlé à Rémi Casals il y a très longtemps sur un séminaire à Paris avec Pierre Laborie et Arlette Farge, par rapport au galon et au galon de Barthas, je sais que enfin, même s'il ne les pose pas, par exemple, quand on le casse de son grade de caporal, il demande un rendez-vous avec le colonel pour être rétabli. Donc c'est peut-être sur le rapport, est-ce qu'il y a un rapport militant ou socialiste avec la hiérarchie ou avec le commandement, parce qu'en fait, Barthas dit que lui-même, c'est une parcelle d'autorité. Lui, c'est très important pour lui d'être rétabli dans son grade de caporal quand il est cassé en 1916. Voilà, merci.
Merci bien. Merci à tous les intervenants pour cette matinée déjà très riche. On va laisser décanter les arguments du sujet.